Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment est née la petite Italie? Un texte de Daniel Bromberg, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Urbania. Le récit de la façon dont la communauté italienne s'est installée à Montréal ne commence pas avec un petit café de quartier affichant une rutilante machine, la Marzocco, dans sa vitrine. Il débute il y a plusieurs générations, au 18e siècle, lorsqu'une poignée d'Italiens du Nord arrivent comme soldats, commerçants et artisans. Vers la fin des années 1800, des hommes originaires du sud de l'Italie, la plupart jeunes, pauvres et seuls, débarquent par vagues à la recherche de travaux éreintants et de salaires encore plus rudes. Poser des rails, creuser des mines, abattre des forêts. Même si la majorité de ces jobs étaient temporaires, très peu sont retournés en Italie. La majorité a choisi de rester pour commencer une nouvelle vie à Montréal. Femmes et enfants ont bientôt suivi. Les familles se sont enracinées. Au début du XXe siècle, des entreprises ferroviaires telles que la Canadian Pacific et Grand Trunk offraient des emplois stables et une communauté s'est tissée. Des lieux de culte et de rencontres se sont construits, dont l'église Notre-Dame de la Défense, entièrement composée de briques rouges et que l'on peut toujours apercevoir à l'est de la rue Dante. L'ouverture de telles institutions signale une communauté qui est là pour rester. L'immigration augmente, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1946 et 1960, des milliers d'Italiens arrivent grâce au programme de réunification familiale. Tous convergent vers le secteur autour du marché du Nord, mieux connu aujourd'hui sous le nom de marché Jean Talon, et y retrouvent le réconfort de la nourriture, de la foi et de la communauté. C'est à ce moment qu'on a commencé à appeler le quartier Piccola Italia, et le surnom est resté. Les choses basculent à nouveau dans les années 1960. Le secteur manufacturier avait besoin de plus de main-d'œuvre et les Italiens ont répondu en masse, ambitieux, flexibles et dotés d'une grande ingéniosité. Les Italiens de première et deuxième génération ont bâti un héritage. Aujourd'hui, la petite Italie doit encore beaucoup à ses débuts. Avec des commerces familiaux multigénérationnels, bars à espresso, épiceries, restaurants qui portent encore la marque de celles et ceux qui les ont façonnés au fil des siècles. C'était « Comment est née la petite Italie », un texte de Daniel Bromberg, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Urbania.
Les musées d'art du Québec sont en péril. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Un texte d'Annie Gauthier publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Tout récemment, le ministre Mathieu Lacombe annonçait que son gouvernement renouvelle ses engagements financiers envers les institutions muséales et insistait sur une bonification de l'aide accordée à certains musées en régions éloignées. Malheureusement, cette annonce ne suffit pas à enrayer la précarité grandissante qui fragilise les musées d'art en région, dont plusieurs s'inquiètent aujourd'hui de leur capacité à poursuivre leurs activités. La crise actuelle s'est installée sournoisement au fil des ans. La fermeture ou la modification de certains programmes, comme les dimanches gratuits, les compressions en éducation qui ont diminué les sorties culturelles et l'arrêt de traitement en cours d'évaluation, des demandes d'aide aux immobilisations, en automne 2024, par exemple, fragilise les musées d'art. L'insuffisance, la non-indexation et la stagnation sans fin des subventions de base ont forcé les musées d'art en région à multiplier à l'excès les projets soutenus par des subventions ponctuelles. Ce phénomène a souvent pour conséquence de les éloigner de leur mission muséale fondamentale, en plus d'imposer un rythme de travail insoutenable aux équipes qui travaillent avec passion dans ces organismes, malgré des conditions de travail et de rémunération qui laissent grandement à désirer. un modèle d'affaires en bout de course. Aux prises comme tous les secteurs de la société avec une inflation généralisée, des coûts de fonctionnement qui dépassent 25 % depuis 2019, les musées tentent péniblement d'augmenter leurs revenus autonomes et les apports philanthropiques. Cependant, cette voie est à la fois intenable et irréaliste pour les musées d'art hors des grands centres comme Montréal et Québec. Les possibilités d'augmenter la fréquentation, d'augmenter les droits d'entrée ou d'accroître radicalement l'ampleur des dons et des commandites sont limitées par les réalités démographiques et économiques des municipalités et des régions du Québec. Ne nous y trompons pas, les musées d'art connaissent bien la philanthropie. D'ailleurs, leurs collections sont majoritairement constituées de dons d'individus. Ils sollicitent constamment et obtiennent des dons en espèces, en services et des commandites des individus, des fondations et des entreprises. Cependant, l'essentiel de l'accès démocratique à l'art ne peut pas reposer sur des dons alors que les régions du Québec sont inégales en matière de richesses accumulées et de prospérité. Des vecteurs essentiels à la vitalité de nos régions. Réduire le rôle des musées à la conservation passive d'œuvres d'art est une voie sans issue. Les musées d'art du Québec ne sont pas des entrepôts à température contrôlée. Ils accompagnent les élèves de toutes conditions dans leurs apprentissages. Ils brisent l'isolement des aînés. Ils aident les nouveaux arrivants dans leur familiarisation avec la culture d'ici. Et ils contribuent à la santé mentale des citoyens, comme le constatent de plus en plus les médecins et les scientifiques. Ils offrent des ateliers adaptés aux personnes à besoins particuliers, aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou à des groupes de la diversité capacitaire. Ils soutiennent également les entreprises qui choisissent de tenir leurs activités en région en proposant un milieu de vie stimulant pour leurs employés. Ils collaborent activement avec les universités, les centres de recherche et les autres musées dans le monde afin de faire avancer les connaissances. Engagés dans des démarches de reconnaissance des nations autochtones, de promotion de l'éco-responsabilité, de lutte contre le racisme et de médiation citoyenne, les musées d'art aident à la construction de communautés viables. Ils assument aussi la responsabilité cruciale et irremplaçable qui consiste à soutenir, présenter et faire connaître les artistes professionnels d'aujourd'hui dont le travail édifie le patrimoine culturel que nous laisserons aux générations futures. Les musées d'art ne sont pas désertés par leur public. Leur fréquentation ne se résume pas aux billets vendus, puisqu'ils investissent aujourd'hui les écoles, les parcs et divers lieux de vie citoyens. Ils présentent de l'art public, ils font aussi circuler leurs expositions et leurs collections. Malheureusement, ces données ne sont pas encore comptabilisées par l'Institut de la statistique du Québec qui mesure la fréquentation culturelle. Les musées d'art en région ont les bras grands ouverts. Ils sont des lieux de vie, d'analyse et d'apprentissage du discernement collectif. En affaiblissant les musées d'art en région, nous ne réduisons pas seulement le soutien aux artistes actuels, nous appauvrissons notre réalité actuelle et notre destin commun. Stopper la dévitalisation. Il faut impérativement garantir un seuil minimal à nos musées d'art établis en région. Pour y parvenir, la Société des musées du Québec revendique que l'enveloppe du programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales soit portée à un minimum de 34,2 millions de dollars. Les musées d'art ont besoin d'un financement stable et accru, directement consacré à leur mission muséale, notamment en ce qui a trait au renouvellement des expositions permanentes et itinérantes. Aussi, nous prenons au mot le ministre Lacombe quand il réitère que 2026 sera l'année des musées. L'appui promis doit s'étendre à toutes les institutions agréées, y compris les nouveaux demandeurs. Alors que le Québec tente de stopper la dévitalisation de ses régions, de valoriser son patrimoine culturel et d'inciter sa population à se nourrir d'une culture authentique, que n'offrent pas les géants du numérique, un réinvestissement historique dans nos musées s'inscrit dans un projet de société qui n'est plus question de reporter à nouveau. C'était « Les musées d'art du Québec sont en péril, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard », un texte d'Annie Gauthier publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le complexe exercice de vieillir, un témoignage de Patrick Sénécal, paru le 12 décembre 2025 dans la presse. J'ai récemment eu 58 ans. Le Big 60 se profile à l'horizon. Plus possible de me le cacher, je suis vieux. Je sais, c'est relatif. Mon voisin de 85 ans se fout de ma gueule chaque fois que j'aborde le sujet. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Mes enfants ne vivent plus à la maison. On parle de moi comme un écrivain vétéran. Des lecteurs de 40 ans me disent qu'ils ont découvert mes livres au secondaire. Je monte de plus en plus lentement dans les voitures. J'utilise encore la poste. J'achète des CD quand j'en trouve. Bref, je ne suis plus jeune. Pour quelqu'un comme moi qui a peur de la mort, vieillir n'est pas particulièrement réjouissant. Mais comme s'opposer à la grande faucheuse est un combat que je suis condamné à perdre, il est inutile de gaspiller trop d'énergie là-dessus. La dégradation, autant du corps que de l'esprit, est bien sûr un élément important. Et je dois admettre qu'il faudrait que je me mette un peu plus en forme si je veux durer le plus longtemps possible. Mais pour moi, l'enjeu essentiel se situe ailleurs. Comment bien vieillir socialement, comme citoyen du monde? Je ne veux pas être un mononcle blanc hétéro qui se ferme au changement de la société. Je ne veux pas devenir ces bons hommes qui m'exaspéraient quand j'avais 20 ans et à qui je me suis juré de ne jamais ressembler. Je ne veux pas commencer mes phrases par « dans mon temps ». Je ne veux pas penser que tous les woke ont tort. Mais je ne veux pas non plus accepter tout ce qui est moderne sous prétexte que c'est nouveau. Je ne veux pas suivre aveuglément les tendances sans les remettre en question. Je ne veux pas automatiquement agir en jeune par peur d'être vieux. Je ne veux pas penser que tous les woke ont raison. Évidemment, le plus simple serait d'adhérer aveuglément à tout ce que les jeunes défendent, adopter le prêt à penser du jour pour ne pas être rejeté. Et certains le font, croyez-moi, du moins publiquement. Mais en privé, autour d'une bière, ils émettent quelques réserves. N'insistez pas, je ne nommerai personne, mais justement, je veux demeurer authentique, ouvert mes critiques. Et c'est là que le slalom social devient complexe. Quand je suis avec des jeunes et que je dénonce les excès de la vertu, certains me traitent de « boomer », alors que je suis un X. Quand je suis avec des vieux et que j'approuve plusieurs tendances actuelles, certains me traitent de « woke », sur le ton de l'insulte, vous l'aurez compris. Mais pas tous, bien sûr. N'empêche, la nuance n'est pas très à la mode ces temps-ci, ni chez les milléniaux, ni chez les rétros. Je souhaite donc vieillir sans avoir peur d'expliquer à certains mononcles que les jeunes ont un regard neuf que nous devons adopter et accepter car il nous fait évoluer. Mais je veux aussi rappeler aux jeunes que parfois, les vieux ont une expérience de la vie qui peut être utile et apporter une perspective à certains débats. Je crois que tout ce qui est nouveau vaut la peine d'être considéré et que tout ce qui est ancien n'est pas automatiquement dépassé. Et je suis prêt à changer d'opinion sur tout, sans problème, tant que ce changement se fait à l'intérieur d'une vraie discussion avec de vrais arguments et pas seulement en me faisant dire « Oh, toi, ton âge, on sait bien. » De mon côté, je ne tenterai jamais de convaincre un jeune Z en lui assenant « Vous autres, les jeunes, promis. » Je veux m'ouvrir aux idées actuelles, quitte à être bousculé dans ma conception du monde, parce que tant qu'on est bousculé, on évolue, on grandit. Un vieux qui croit qu'il n'a plus rien à apprendre est déjà mort. Mais je veux aussi avoir le droit de trouver certaines tendances trop intenses, trop dogmatiques et trop bien pensantes, issues de notre « white guilt » qui, s'il permet certains ajustements légitimes, mène parfois à des positions ridicules. Mais si je m'oppose à certaines choses, je dois pouvoir le justifier avec de vrais arguments, bien sûr, et pas uniquement par un refus imbécile du changement que l'on retrouve trop souvent chez les gens de mon âge. Je n'ai aucun malaise avec le fait qu'une drag queen vienne lire des contes dans les écoles primaires. Mais j'ai un sérieux problème avec le fait que certains mots soient bannis du discours public. Et il n'y a pas de raison que je passe pour un raciste ou un rétrograde à cause de cette position, tant que je peux la défendre intelligemment. Tout comme je peux être un homme résolument de gauche, ouvert à toutes les cultures, à toutes les orientations sexuelles, en relevant néanmoins qu'une certaine gauche dérape parfois depuis quelque temps et se tire une balle dans le pied en usant d'une rhétorique méprisante et agressive qui ressemble un peu trop à celle de la droite. Mais il faut aussi être humble. Quand, à mon âge, on entend parler de certaines tendances qui nous échappent, on doit juste le reconnaître et fermer notre gueule. Car chialer contre quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est le meilleur moyen d'avoir l'air d'un con paléontologique. Par exemple, la non-binarité me rend perplexe, je l'avoue. Je ne comprends pas ça, mais je ne juge pas non plus. Si j'étais un mononcle, je dirais que c'est une mode ridicule. Je préfère admettre mon ignorance sur le sujet en tant que vieux, et écouter les autres en discuter pour éventuellement participer au débat quand j'aurai mieux saisi le phénomène en tant que citoyen. Voilà donc comment je tente de vieillir. Reconnaître qu'on a encore plein de choses à apprendre soi-même et aux autres rend la perspective du temps qu'il me reste plutôt stimulante. Là-dessus, je vous laisse. J'ai une somme à payer au gouvernement et ma fille va m'expliquer comment fonctionne l'ARC sur ce fichu Internet. Dans mon temps, c'était tellement plus simple. C'était le complexe exercice de vieillir, un témoignage de Patrick Senecal, paru le 12 décembre 2025 dans la presse.
Des logements construits en 32 heures. Un texte de Sarah Champagne, paru le 20 décembre 2025 dans la presse. Il y a 16 stations de travail dans l'usine de Bonneville de Belleuil sur la rive sud de Montréal. À la toute première, on trouve de grands morceaux de contreplaqué, de charpente et des planches, les matériaux bruts. À la 16e station, un module rectangulaire parfaitement étanche qui contient deux appartements de 500 pieds carrés avec la plomberie, le câblage et même les armoires de cuisine, emballés et prêts à embarquer sur un camion. Il s'écoule à peine 32 heures du début à la fin de ce processus. La préfabrication 2.0, si vous voulez, à la vitesse grand V. Bonneville a incarné pendant des décennies le rêve de l'accession à la propriété avec ses fameuses maisons modulaires. Mais l'entreprise soixantenaire est en train de transformer radicalement son modèle d'affaires, la raison de ma visite ici. Les résidences unifamiliales ne représentent plus que le quart de son chiffre d'affaires, contre 75 % il y a 5 ans. Bonneville se spécialise de plus en plus dans les immeubles locatifs, et plus précisément dans les logements abordables. Le groupe en vend depuis environ 18 mois à des organismes à but non lucratif, au BNL, et à des offices d'habitation. Ça semble bien fonctionner. Bonneville a construit jusqu'ici près de 800 unités réparties dans une dizaine de projets un peu partout au Québec. Le groupe s'apprête même à mettre en marché des villages démontables pour sans-abri, ai-je appris pendant ma visite. Coût estimé? 90 000 $ la porte, tout compris. Une assez bonne affaire en cette époque inflationniste. Le projet semble sérieux. Des discussions ont été entamées avec plusieurs villes, dont Montréal et Gatineau. Nous sommes loin de la Poitras Casa, une maison moderne et branchée, dessinée par le designer Jean-Claude Poitras, que Bonneville avait présentée en 2005. Comme les temps changent. Je l'ai souvent écrit dans cette chronique. La construction modulaire est l'un des remèdes les plus prometteurs pour s'attaquer à la crise du logement. Pas une réponse universelle, bien sûr, mais un outil drôlement efficace. L'une des grandes forces du préfab, la standardisation. Le fait de reproduire les mêmes modèles de logement dans le climat contrôlé d'une usine génère d'importants gains de productivité par rapport aux chantiers traditionnels. À l'usine de Belleuil, une cloche sonne toutes les 2 heures. Chaque module franchit quelques mètres vers la prochaine station de travail. Ils sont tirés par des chaînes cachées sous le plancher. Les employés fabriquent d'abord la structure du plancher, puis les plafonds, puis posent les murs, l'isolation, le gypse, la plomberie, les armoires, jusqu'à l'emballage final. Un travail à la chaîne. 32 heures de travail par module, top chrono. La beauté, c'est que les travailleurs ne se déplacent pas, ni les matériaux, ni l'outillage, m'explique pendant la visite Éric Bonneville, coprésident du groupe. On amène le module aux travailleurs. C'est ce qui se rapproche le plus à plusieurs égards d'une chaîne de montage automobile. Une fois terminé, les modules sont emmagasinés dans la cour arrière, puis transportés sur de gros camions jusqu'au site du projet X ou Y. Ils sont ensuite assemblés à l'aide d'une grue, telle de gros blocs Lego. Des ouvriers sur place connectent le filage et la plomberie, puis installent le toit et la façade, souvent en briques. Bonneville n'est pas le seul acteur du préfab à avoir entamé un virage vers le logement abordable. Ils sont une dizaine au Québec et plusieurs ont aussi commencé à convertir leurs activités. La Société d'habitation du Québec, SHQ, a agi comme catalyseur en lançant un appel d'offres pour 500 unités modulaires l'an dernier. Elle a organisé une délégation en Scandinavie, championne dans ce domaine. Bien entendu, les entreprises comme Bonneville ne font pas la charité. La construction de maisons unifamiliales a chuté en vrille depuis la pandémie. Le locatif occupe maintenant une part considérable du marché. Et dans le lot, les besoins pour des logements abordables sont plus criants que jamais. La demande excède l'offre. Le business case est bon. Mais la transformation du modèle d'affaires de l'industrie pourrait faire une réelle différence dans la crise à terme. Bonneville, par exemple, y trouve son profit, mais il agit aussi de plus en plus comme un accompagnateur auprès des OBNL dès les toutes premières étapes d'un projet. L'entreprise a recruté une demi-douzaine d'employés issus des milieux communautaires et municipaux pour l'aider à développer sa nouvelle offre. Elle a aussi créé un logiciel appelé « Configurateur » qui permet en quelques heures de créer toutes les facettes d'un projet immobilier avec un niveau de détail surprenant. Le produit calcule le format idéal du bâtiment par rapport au zonage, à la taille du terrain, à l'ensoleillement et aux marges de recul nécessaires. Il fait ensuite un assemblage de modules, selon le nombre et la taille des appartements souhaités. Puis arrive la portion cruciale, qui fait souvent tout dérailler, le calcul des coûts. Un configurateur en temps réel. Le modèle vient tenir compte des programmes de subvention qui sont en place, des contributions du milieu, des coûts d'opération, des loyers maximum qui sont attribués, explique Éric Bonneville. Et il vient répondre à la question la plus importante pour tout projet viable. Est-ce que je rencontre le ratio de remboursement de la dette qui est autorisé par la SHQ ou le fonds fiscalisé ou le banquier? L'objectif paraît simple. Concevoir dès le départ un modèle viable pour les OBNL et abordable pour les locataires à faible revenu. Mais dans la réalité, c'est souvent à cette étape du montage financier que ça accroche et où bien des projets hors marché avortent. Éric Bonneville affirme avoir plus de 1000 unités abordables sur sa planche à dessin et il aimerait en construire 2000 autres en 2 ans à prix fixe en bas des budgets qui sont reconnus avec un consortium d'OBNL et de fonds fiscalisés. Le projet sera présenté à la SHQ et à la nouvelle agence fédérale Maison Canada. À bel oeil, son groupe a investi 8 millions depuis 2 ans pour acquérir des cloueuses et visseuses robotisées, entre autres machines. Les coûts de fabrication baisseront au fur et à mesure que l'automatisation et la productivité progresseront dans les usines, il en est persuadé. Le Québec, croit-il, peut et doit s'inspirer des pays scandinaves, où le préfab a transformé l'industrie de la construction. Je suis sûr qu'on va se revirer de bord dans 5 ans, puis on va regarder en arrière et on va dire qu'on a vraiment vécu une révolution modulaire. Ça ne répondra pas à tous les besoins, c'est évident. Mais ça pourrait faire une différence réelle. C'était « Des logements construits en 32 heures », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 décembre 2025 dans La Presse.